RFI, 9h à Paris, 8h en temps universel. Et le journal, c'est avec Clotilde Dumais.
Bonjour à tous. Le chancelier allemand attendu à Magdebourg, ville sous le choc après l'attaque à la voiture bélier qui a fait 2 morts et 60 de blessés hier soir sur un marché de Noël. Le suspect a été arrêté, mais ses motivations ne sont pas connues pour le moment. Plusieurs blessés à Tel Aviv. Israël a été frappé par un projectile tiré du Yémen. Attaque revendiquée par les rebelles houthis. Nous serons avec le correspondant de RFI à Jérusalem dans ce journal. Et puis là, en France, la droite participera-t-elle au gouvernement de François Bayrou? La porte n'est pas fermée alors que le Premier ministre espère annoncer la composition de son équipe dans les prochains jours. Les États-Unis se disent choqués et attristés. Même sentiment du côté de la chef du gouvernement italien et du Premier ministre espagnol. La France partage la douleur du peuple allemand, ajoute le président Emmanuel Macron. Réaction après une attaque à la voiture Bélier hier soir sur le marché de Noël de Magdebourg dans le nord-est de l'Allemagne. 2 personnes ont été tuées. Le suspect a été arrêté. Le point sur la situation avec Pascal Thibault.
Hier soir vers 19h, une voiture massive a foncé à toute vitesse dans la foule nombreuse un vendredi soir sur le marché de Noël au cœur de Magdebourg. Le véhicule ne s'est arrêté qu'après 400 mètres. Le bilan humain est énorme avec 60 de blessés dont 15 grièvement. 2 personnes ont été tuées, dont un enfant en bas âge. Le conducteur de la voiture a été arrêté immédiatement. L'homme âgé de 50 ans est originaire d'Arabie Saoudite et travaillait dans la région. Arrivé en 2006 pour ses études, il avait une formation de médecin psychiatre et avait obtenu le statut de réfugié. Il n'était pas connu pour avoir des antécédents islamistes. Au contraire, cet activiste connu dans la communauté saoudienne aurait reçu son statut de réfugié en raison de son opposition au régime dans son pays. Il aurait rompu avec l'islam, défendait le danger d'une islamisation de l'Allemagne. Les médias lui prêtent même des accointances avec le parti d'extrême droite AfD. Énorme émotion en Allemagne, bien sûr, après cette attaque, avec beaucoup de réactions. Le chancelier Scholz, qui a réagi hier soir sur la plateforme X, sera ce matin sur place à Magdebourg. Pascal Thibault, Berlin RFI.
L'attaque a été revendiquée ce matin par les rebelles houthis. Pour la seconde fois en 48 heures, un missile du Yémen a explosé dans la région de Tel Aviv. Les services de défense israéliens n'ont pas réussi à l'intercepter. 33 personnes ont été blessées d'après un bilan hospitalier israélien. Les précisions avec vous, Michel Paul, depuis Jérusalem.
Oui, Clotilde, un cratère dans un parc de jeux pour enfants. Le missile s'est écrasé à Jaffa, au sud de Tel Aviv. En plein milieu de la nuit, les vitres des immeubles de tout le quartier ont volé en éclats et c'est ce qui a provoqué le nombre relativement important de blessés, tous légèrement atteints. L'armée israélienne reconnaît son échec dans l'interception de ce missile balistique tiré depuis le Yémen. Des vérifications sont en cours pour tenter de comprendre précisément pourquoi ce missile n'a pas été intercepté, souligne un communiqué militaire. Jeudi dernier, un missile également en provenance du Yémen avait, lui, été partiellement intercepté par le système Arrow 3, mais son ogive explosive avait touché et détruit en partie une école de Ramat Gan, une banlieue de Tel Aviv. Cela au moment même où l'aviation israélienne menait des raids contre plusieurs cibles identifiées avec le régime houthi au Yémen. Et ce matin, les Houthis revendiquent le tir d'un missile balistique hypersonique de type Palestine 2 sur une cible militaire israélienne. Pas de réaction israélienne à ce stade.
Michel Paul en direct de Jérusalem pour RFI. Washington abandonne son offre de récompense prévue pour l'arrestation d'Abu Mohamed al-Joulani, le chef du groupe islamiste radical Hayat Tahrir al-Sham qui a conduit l'offensive des rebelles en Syrie. Décision prise à l'issue d'une rencontre entre des diplomates américains et les responsables du HTS. Les nouvelles autorités de Damas assurent de leur côté vouloir jouer un rôle dans la promotion de la paix régionale. Ce sera certainement un week-end chargé et studieux à Matignon. Le Premier ministre français espère pouvoir annoncer la composition de son gouvernement dans les prochains jours, peut-être avant Noël. Pour le moment, difficile d'avoir une idée des profils qui seront retenus et des partis politiques prêts à participer ou non à ce nouveau gouvernement. La droite, notamment, en fera-t-elle partie? Les responsables des Républicains laissent planer le doute. Ils ont demandé un nouvel échange hier, Victorien Villaume, avec le Premier ministre.
Les Républicains vont-ils remonter dans le bateau? C'est l'espoir de François Bayrou, qui souhaite en particulier garder le très conservateur Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur. Dans l'entourage du ministre, on affirme que toutes les conditions sont réunies pour son maintien. Il aurait obtenu, je cite, la garantie de pouvoir continuer son travail contre l'immigration illégale. La ministre sortante de l'Agriculture, Annie Genevard, également étiquetée LR, ne cache pas son intention de poursuivre l'aventure. Et dans les rangs des Républicains, on imagine même de plus en plus une arrivée au gouvernement de Laurent Wauquiez lui-même. Les Républicains réclament à François Bayrou des garanties sur des sujets totems à droite, réduction des dépenses publiques plutôt que hausse d'impôts, plus de sécurité, plus de contrôle aux frontières, moins de normes. Un élu nous assure que les Républicains comptent maintenir la pression sur François Bayrou dans l'attente de son discours de politique générale le mois prochain.
Victorien Villaume. Pendant ce temps, le président français a terminé sa visite à Mayotte près d'une semaine après le passage du cyclone Chido. L'archipel ne vivra pas normalement pendant des mois, a prévenu Emmanuel Macron, en précisant notamment que les écoles ne pourraient pas toutes rouvrir le 13 janvier comme annoncé précédemment. Emmanuel Macron qui a enchaîné avec un déplacement à Djibouti pour partager un repas de Noël avec les troupes françaises. La base militaire installée sur place va d'ailleurs se réinventer, selon Emmanuel Macron, comme point de projection pour des missions en Afrique après le retrait des forces françaises du Sahel. Après une rencontre ce matin avec son homologue djiboutien, le président français s'envolera dans l'après-midi pour Addis Abeba en Éthiopie pour une visite officielle de quelques heures. C'est un engagement de l'Union européenne, 210 millions d'euros dans le cadre des partenariats avec la Mauritanie. Jeudi, le commissaire européen aux partenariats internationaux Joseph Sikela est venu signer une première enveloppe de 100 millions d'euros destinée à soutenir le développement de l'hydrogène vert. Le système de santé mauritanien est destiné aussi à la question migratoire. Les précisions de Charlotte Cossé.
23 millions d'euros sont déjà en cours de versement à destination directe du Trésor national du pays, Sidi Ahmed Houlbou, le ministre mauritanien de l'économie et des finances.
Cela inclut la coopération économique, le dialogue politique et le secteur de la pêche. Dans ce contexte, on a signé un accord avec l'Union européenne de 100 millions d'euros pour la consolidation du développement durable et la résolution du problème de l'immigration. Avec cette somme, nous allons soutenir les capacités des départements à gérer les affaires migratoires et la défense des droits fondamentaux des migrants.
Un volet précis est destiné aux questions migratoires, le commissaire européen aux partenariats internationaux, Joseph Sikela.
Il s'agit de mesures visant à renforcer la gestion des frontières et la surveillance maritime, afin de garantir la stabilité et la sécurité des communautés. Le paquet de mesures sur les migrations et les populations déplacées a des composantes de surveillance maritime, de sauvetage et de lutte contre la crise des réfugiés dans l'est du pays. Il représente plus de la moitié de cette somme. L'équipement de vos forces de sécurité représente environ un quart de l'enveloppe.
Nouadhibou, sur la côte nord-ouest du pays, est devenue une ville de transit importante, destination les Canaries. Plus de 80% des bateaux accostant sur l'archipel espagnol arriveraient de Mauritanie.
Charlotte Cossé, finalement pas de shutdown aux États-Unis. Le Congrès a évité de justesse la paralysie budgétaire pour les services publics fédéraux. La Chambre des représentants puis le Sénat ont tous deux validé une loi qui assure le financement de l'État fédéral jusqu'à la mi-mars. Au Royaume-Uni, de plus en plus d'universités tournent le dos aux entreprises pétrolières. Beaucoup d'entre elles sont désormais exclues des salons de recrutement, signe d'une perte de légitimité de ces entreprises auprès des étudiants, selon les auteurs d'une enquête sur le sujet. Ils précisent qu'en 2024, les universités britanniques sont 30% plus nombreuses qu'il y a un an à fermer leurs portes aux pétroliers et aux gaziers. Les explications de Simon Rosé.
ExxonMobil, BP, Shell, des mastodontes du secteur pétro-gazier qui n'ont plus la cote auprès des étudiants britanniques. Autrefois considérés comme bons débouchés au sortir de l'université, ces dernières les boudent désormais de plus en plus. Elles sont 30% en plus que l'an dernier à fermer leurs portes de leur salon de recrutement aux géants du fossile. Un mouvement particulièrement soutenu par les étudiants, notent les auteurs de l'étude. Un demi-million d'entre eux ont rejoint le mouvement Fossil Free Careers, des carrières sans fossiles, qui pressent les établissements de ne plus soutenir des entreprises qui contribuent au réchauffement climatique. Le phénomène se traduit également de manière plus large. Les 149 universités britanniques, dans leur quasi-totalité cette fois, ont également pris des engagements pour cesser d'investir dans des entreprises du secteur. Si toutes n'ont pas encore concrétisé cette intention, ces initiatives prennent de l'ampleur et les chiffres sont en progression constante d'année en année.
Les précisions de Simon Rosé. Paul Watson de retour en France après 5 mois de détention au Groenland. Le défenseur des baleines a retrouvé ses proches à Paris où un rassemblement est prévu pour l'accueillir cet après-midi. Paris où il est presque 9h10, une heure de moins en temps universel. La suite, c'est le débat africain si vous êtes en Afrique ou bien à Paris. Et puis sinon, c'est ici l'Europe pour le reste du monde.